My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Salut à tous dans Les Enfants du Nouveau Monde. On se retrouve au mois d'octobre avec Lionel Santucci, qui est facilitateur, coach et formateur en communication transformative depuis plus de 15 ans en France et dans le monde, notamment en Amérique latine. Alors la communication transformative, on va voir ce que c'est. Et Lionel Santucci, eh bien, c'est un homme étonnant. Il allie une authenticité souvent incisive à une profonde empathie. Et tout ça réuni dans une présence charismatique qui essaye de participer à la transformation des humains vers plus de bonté. C'est ça Lionel ? Salut !
J'essaye rien du tout.
T'y arrives ?
Non, je fais des choses, il y a des gens qui se transforment, mais ce n'est pas de l'essayage que je fais moi. C'est plutôt des expériences humaines.
D'accord.
Donc j'expérimente et puis les gens expérimentent et puis ils sortent avec des prises de conscience que j'ai appelées transformation. Mais il n'y a pas vraiment de transformation en fait. C'est simplement retrouver l'authenticité, l'intégrité. Il n'y a pas de choses qui changent. Pourtant on dit qu'il y a des choses qui forment l'esprit. Tu sais, tu as déjà entendu ces mots. Les gens ils disent ouais, ça forme l'esprit. Donc l'esprit doit avoir une forme. Sinon on dirait pas ça forme l'esprit. Mm-hmm. Donc moi je dirais que je déforme.
Tu déformes, ouais, c'est ça.
C'est-à-dire déformer ce qui a été formé et formaté et tout. Mais en même temps ça se voit pas la forme de l'esprit. C'est marrant ce mot formé, formaté, transformé, déformé, formation. Mm-hmm. Donc information. Information ça veut dire la formation qui rentre. C'est ce qui forme l'esprit en fait, l'information. Mm-hmm. Toi qui fais l'information.
Ouais,
là on va former les esprits avec ce que je vais raconter. Tu vois,
mais
en même temps, ça veut dire que ce qu'on écoute est important parce que ça nous forme l'esprit.
Mm-hmm,
donc quand on s'associe avec des choses qui nous forment l'esprit, il y a des choses... Ça peut être terrible quoi, l'information en fait.
Oui, bah, d'ailleurs, on voit bien ce que ça donne. Hein. Aujourd'hui, les médias mainstream...
Mais pas seulement les médias. Ouais. Moi, le travail que je fais, c'est justement de faire prendre conscience aux gens des informations qui ont formé leur esprit et d'évacuer celles qui ont formé d'une façon pas harmonieuse ou pas connectée avec leur identité réelle. Quoi.
Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est ça, ce gros travail de transformation dont on parle, c'est essentiellement ça, c'est du déconditionnement, c'est d'enlever un petit peu toutes les habitudes, toutes ces formations, comme tu dis, tout ce que ça a laissé comme filtre sur nos regards et qui ne nous permettent pas d'accéder à la vraie réalité, c'est bien ça ?
Je ne pense pas que c'est aujourd'hui, je pense que de tout temps, les gens ont cherché à savoir qui ils étaient, l'être humain, et qu'aujourd'hui, on a des techniques de psychologie, de catharsis, etc. Avant, il y avait plus des techniques spirituelles, méditation, ou les rites amérindiens. C'était la même chose, c'était essayer de connecter avec l'identité réelle et pas s'identifier à des choses qui ne sont pas. Mais je pense que de tout temps, l'humain, il a cherché à... C'est même le propre de l'humain de savoir qui suis-je. Quand quelqu'un commence à se dire qui suis-je, ça veut dire qu'il est un être humain. Avant qu'il se pose cette question, je me demande. Parce que si la personne ne se demande pas qui elle est dans ce monde, il est guère différent de l'animal, en fait. Hein. Donc oui, depuis tout le temps, les êtres humains, ils ont cherché à savoir qui ils étaient, donc à voir ce qui était eux et ce qui avait été formaté, ce qui avait été engrangé dans le disque dur. Là.
Donc
en psychologie, on appelle les schémas ou les croyances. Mm. Donc, mais de tout temps, on a essayé d'arracher ces choses-là pour savoir mais qui suis-je au fond. Quand on enlève tout, qu'est-ce qui reste quoi.
Tu veux dire que la psychologie moderne, ça serait un peu une nouvelle forme de spiritualité? Ça nous permettrait de nous rapprocher de notre être véritable?
En tout cas, psyché. Ça veut dire l'âme.
Ouais.
Et logare, c'est étude. Donc, la vraie psychologie, c'est l'étude de l'âme. Et la religion, c'est aussi l'étude de l'âme.
Mm-hmm.
Donc, je pense que ça dépend. Il y a des gens qui vont faire de la psychologie pour faire du business, comme il y a des gens qui font de la religion pour faire du business. Donc, mais j'ai l'impression que oui, l'être humain, il cherche par différents moyens, différents mots à trouver qui il est. Et même, je crois que l'être humain, il va sur la Lune, sur les autres planètes, parce qu'au fond, il veut savoir d'où il vient, quelle est son origine, quelle est son identité, que c'est le moteur de l'être humain.
Mm.
Bon, le problème, c'est qu'il vient parfois chercher à des endroits. C'est un peu comme c'est l'histoire du gars qui a perdu sa clé, là. Il cherche sa clé, puis un pote qui lui dit « T'as perdu ta clé par ici, il est sous un lampadaire, tu vois ?» Et l'autre, il dit, non, je l'ai perdu dans le noir là-bas, mais ici, il y a de la lumière. Et l'humain, il va chercher sa vérité ou sa connaissance. Il va à des milliards de kilomètres pour essayer de comprendre l'origine. Alors que dans la psychologie et la spiritualité, on va chercher l'intérieur de nous. C'est vachement plus près. En Inde, ils disent que le divin, il a voulu se cacher. Alors, il ne faut plus que je me montre aux êtres humains parce qu'ils font n'importe quoi avec la religion et tout. Il faut que je me cache quelque part. Alors, il avait des conseils d'amis qui lui disaient, mais va te cacher très loin, dans une planète, très très loin. Il dit, non, ils vont y aller. Eh ben, enterre-toi au fond de la terre. Non, ils vont creuser. Va au fond de l'eau. Non, ils vont aller au fond de l'eau. Donc, il a dit, ok, je vais me mettre dans leur cœur, là, ils n'iront jamais chercher.
C'est Dieu qui s'est caché.
Ouais, le divin. Et du coup, oui, je pense que dans tout ce qui est authentique, c'est les gens qui vont dans leur cœur chercher qui y sont, leur origine. Après, souvent, on va le chercher ailleurs parce qu'on fuit un peu, parce que ça fait peur d'aller à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, quand on y va, on voit plein de trucs qui ne nous plaisent pas. Donc, moi, mon travail, en fait, c'est de montrer aux gens que ce qui ne leur plaît pas d'eux-mêmes, ce n'est pas eux, ce sont ces conditionnements. Après, il y a des conditionnements qui sont utiles quand même. Tu vois, par exemple, on a appris à lire, c'est bien de ne pas enlever ça de nous-mêmes. Ça sert parce que toi, tu aimes bien lire et tu aimes bien prendre des notes. Vois, là, tu as plein de notes. Donc, ce serait terrible. En même temps, on peut s'en passer. Hein. Une civilisation, avant, il y a des civilisations, c'est transmission orale. Les gens avaient beaucoup plus de mémoire.
Donc,
plus on écrit, moins on a de mémoire aussi. Ouais. Plus on enregistre, moins on a de mémoire aussi.
Et alors, dans la communication transformative, donc l'idée, c'est d'aller à l'intérieur, comme tu dis. Et pourquoi la communication, c'est un levier de transformation pour l'humain ?
Parce que la communication, je crois que c'est quelque chose qu'on n'arrête jamais de faire. On n'arrête jamais de communiquer. Donc, on est en permanence en communication avec les autres, avec soi-même, avec la nature. Tu vois, là, on est sur la nature, là. Si on écoute, si seulement on s'arrête et qu'on écoute les oiseaux, et bien, immédiatement, il y a une sensation agréable pour moi des oiseaux, et cette sensation agréable, elle vient communiquer quelque chose à moi, tu vois. Donc c'est sans arrêt cette communication agréable, désagréable, j'aime pas, sans arrêt, ou même je fais quelque chose, je trouve que c'est pas bien fait, je me traite de nul, donc je suis sans arrêt en train de communiquer, de me juger, de juger ce qu'il y a autour de moi, mais on n'a jamais appris. Donc en fait, cette communication est intéressante parce qu'elle va nous montrer comme le haut de l'iceberg de notre conditionnement, en fait. C'est-à-dire que la communication va être le symptôme du problème du conditionnement. Donc nous, on va utiliser la communication pour pouvoir avoir la première prise de conscience de tiens, où j'en suis.
Ouais.
Là, par exemple, quelqu'un qui est toujours dans la colère et qui communique avec la colère, on va pouvoir dire tiens, il y a une blessure qui a généré de la colère. Donc ça me donne une indication sur où creuser, où aller. Donc les gens, quand ils viennent faire des stages de communication transformative, la première chose qu'ils vont prendre conscience, c'est ce qu'on appelle la métacommunication, leur technique, comment ils communiquent et en quoi ça vient d'un conditionnement.
Et pas seulement avec le verbal.
Ah non, communiquer, c'est pas juste verbal. Parfois, on communique en silence. Hein. Avec des yeux, tu peux regarder quelqu'un et lui montrer que tu le détestes ou que tu l'aimes. Et d'ailleurs, parfois, le non-verbal est vachement plus puissant. Je veux dire, tu as une super jolie fille en Colombie qui est dans le bus avec toi, qui te fait un clin d'œil, elle n'a pas besoin de parler, il se passe quelque chose.
Silence est parfois plus éloquent.
Oui, donc le corps parle. Parfois, c'est beaucoup plus fort de recevoir un message non-verbal que verbal, en fait.
Toi, qu'est-ce qui te motive à participer à ce changement des gens, c'est-à-dire à les aider à prendre conscience de cet être qu'ils sont profondément ?
Ben moi, je n'avais pas conscience que j'aidais les gens à changer. Ce n'est pas vraiment de là que je viens, moi. Je ne suis pas dans l'aide, moi. Moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie pour essayer de comprendre qui j'étais ou comment fonctionner, ou comment fonctionnait la Terre, quel était le sens de la vie. Depuis tout petit, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là ? On va mourir un jour, ça n'a pas de sens. Et j'avais vraiment besoin de répondre à ces questions. Et je posais ces questions à mes parents, aux professeurs de philosophie, à l'école et tout. Puis chaque fois, on me disait, mais arrête de te poser des questions. Tu as juste à apprendre des choses. Et quand tu seras plein de connaissances, là, de savoir, là, de tout ce que les autres ont vécu, eh ben voilà, tu pourras vivre ta vie, gagner de l'argent et tout. Mais il n'y avait toujours pas la réponse. Donc je suis parti faire le tour du monde, en fait. Et j'ai cherché. Et puis j'ai vu qu'il y avait la même misère, la même souffrance, il y avait les mêmes choses, en fait. Peu importe la couleur, la culture, etc. Le problème était toujours le même. Donc un jour, j'ai commencé à faire du yoga par hasard, j'ai rencontré des gens qui parlaient du yoga, j'ai dit tiens, je vais aller voir à l'intérieur. Et là, je me suis mis dans un ashram, je suis resté 20 ans à étudier avec des sages, des philosophies, des choses où il y avait les réponses. C'est-à-dire que quand j'approchais ces gens en Inde, certaines personnes, pas toutes, parce qu'il y a beaucoup d'escrocs aussi là-bas, mais il y avait certaines personnes que j'ai rencontrées où j'avais les questions, qui suis-je, et ils commençaient à me donner des réponses, qui avaient du sens. Et quand j'ai vu qu'il y avait du sens dans leurs réponses, j'ai commencé à appliquer ce qu'ils m'enseignaient, pratiquer. Et là, j'ai vu qu'il y avait de la conscience qui venait en moi, et cette conscience amenait du bonheur, de la joie. Donc je me suis dit, tiens, si je peux apprendre qui je suis, dans la joie, prendre conscience, améliorer mon caractère, devenir meilleur, je marche. Et puis après 20 ans dans l'ashram, j'ai rencontré quelqu'un qui a enseigné de la communication, qui l'appelait pas transformative à l'époque. Et je me disais, oh, je sais très bien communiquer, moi. Et puis quand j'ai commencé à travailler avec lui, je me suis aperçu que oui, j'avais une certaine connaissance de yoga, mais au niveau communication, c'était toujours dans la survie. En fait, je savais très bien communiquer. Tu me laisses en Chine ou au Pérou, je ne parle pas la langue, il faut au Pérou, maintenant je la parle. Mais en Chine, et tu me dis, démerde-toi, je vais me démerder, hein, je vais avoir à manger, à dormir, j'aurai tout. Parce que je sais comment survivre. Par contre, de ce qui est vivre et aimer, toutes ces choses que je n'ai pas appris à faire enfant, de vraiment vivre, partager, être avec l'autre, comprendre l'autre, entendre l'autre, partager vraiment quelque chose de profond cœur à cœur, ça, je n'avais pas vraiment les outils. Et en fait, c'est ce que j'ai pris comme conscience dans ce travail, c'est que je n'ai pas appris à communiquer avec un être, j'ai appris à survivre avec un être, mais pas être avec l'être, être avec. Et du coup, quand j'ai appris à faire ça, j'ai vu que c'était tellement merveilleux que je me suis dit, je vais enseigner ça à tout le monde. L'enseignant m'a dit, va enseigner ça en France, et j'ai commencé à donner des séminaires parce que je me suis dit, tiens, les gens, je ne pensais pas les aider. Je me disais, tiens, j'ai découvert un truc qui est vachement beau, j'ai envie de le partager. Mais je n'ai jamais eu la notion d'aider les gens. Moi, je ne fais pas de la thérapie, quoi, même si c'est thérapeutique pour certains. Je n'ai pas envie d'aider personne, moi, en vérité. Je n'aide pas les gens, moi. Je partage. D'ailleurs, je suis un homme simple qui se partage avec tous. C'est mon truc, moi. C'est mon identité.
C'est ta mission.
Donc, mon service, je dirais.
Ton service.
Mon service, on est tous des serviteurs. Donc, mon service, c'est connecter cette simplicité, la garder et la partager. Et en fait, c'est pour ça que j'invite les gens ici. Mais ce n'est pas que j'ai envie que de vous aider. Vous n'avez pas besoin d'aide, d'ailleurs. Par contre, de partager ça, ça me donne du plaisir parce que je partage une richesse. Et moi, mes séminaires, ils sont basés sur ça. Partager notre richesse. Et communiquer, c'est mettre en commun ce qu'on a d'unique. Ça veut dire partager ce qui est unique. Et ce qui est unique, c'est la richesse. Parce que c'est la différence, la distinction qui nous rend riche. Si tout le monde était comme moi sur la Terre, je pense que je me suicide. Ben oui, il n'y aurait pas de relation, c'est donc la distinction. C'est vrai qu'il y a un mélange de cultures, on parle de l'immigration et tout. Mais on pourrait voir ça comme une source de richesse énorme, énorme, une chance énorme.
Évidemment.
Si la France n'avait jamais ouvert ses frontières à aucune autre culture, je ne sais pas, ce serait un pays misérable. On serait encore peut-être, même les Gaulois, ils avaient déjà ouvert. Je ne sais pas, on serait à l'âge de la pierre. Donc la richesse de l'autre, ce qu'on appelle l'intelligence collective, en fait, quand on commence à prendre soin de chaque personne, à l'écouter, ben chacun, c'est... Il n'y a pas besoin d'aider les gens quelque part. Ils s'entraident automatiquement. C'est presque naturel d'aider l'autre. C'est même, tu veux dire, tu demandes la direction quand tu es perdu dans une ville à quelqu'un, mais les gens, ils te sourient, ils te répondent. Parce que c'est naturel le service. On veut servir. Et qui on veut servir? On veut toujours servir des êtres vivants d'abord. C'est naturel de servir des êtres vivants. On ne veut pas servir une table ou une chaise. Même si on la nettoie, c'est pour les êtres vivants qui vont manger dessus. Donc c'est toujours en lien avec le vivant, donc entre l'être, l'âme, l'esprit. Donc c'est ça qu'on veut servir. Et cet esprit, il est toujours, c'est toujours une énergie, l'esprit, qui n'est pas matériel, qui est quelque chose qui a une conscience. Donc ça veut dire qu'en fait, tout être vivant est au service de la conscience. C'est notre identité. On est tous au service de la conscience, qu'on le veuille ou non. Après, il y en a qui sont conscients de ça et des autres qui ne sont pas conscients. Et en fait, les gens, ils vont chercher sur la Lune qui ils sont, mais sont simplement tous des serviteurs de la conscience. Après, si quelqu'un en est conscient, ça devient plus de bonheur.
De le vivre.
C'est comme si tu sais ce que tu manges, tu connais la recette.
Ça donne de
plaisir, tu as toutes les épices. Si tu as le cuisinier qui a cuisiné un super plat et qui t'explique, tu vois, là, j'ai fait revenir un peu de ghee. Le ghee, c'est le beurre clarifié en Inde. Et dans ce ghee, j'ai fait revenir des aubergines pendant 5 minutes. Après, j'ai mis un peu d'épices de cumin et tout. Juste la description, la conscience qu'il met, tu dégustes le truc. Il y a une conscience. Donc, il y a conscience, quand il y a discernement, quand il y a distinction, le goût. Et beaucoup,
et
bien meilleur. Savoureux. Donc
c'est
la conscience qui donne le plaisir, le vrai plaisir. Je ne parle pas de plaisir éphémère, je parle de vrai plaisir, un plaisir qui est quelque chose de savoureux, qui dure. Donc c'est ça. Comme moi j'ai goûté ça, j'ai dit, oh là là, mais ça, il faut le partager. Je ne vais pas aider les gens, je n'ai pas besoin d'aider les gens, je vais partager ça. Et en fait, ça peut, le sous-produit, c'est peut-être de l'aide ou de la thérapie, j'en sais rien, mais ce n'est pas l'idée.
D'accord, première. J'entends.
D'ailleurs, première, c'est partager.
Tu ne prétends pas être là-dedans.
Moi, je ne suis pas un thérapeute.
Et alors, quel regard tu portes sur ce monde qui est actuellement recherche beaucoup la thérapie, recherche beaucoup le soin, l'aide? Tu ne trouves pas, toi?
Moi, je trouve qu'il recherche plus le plastique, le gasoil, la guerre, les armes. Je veux dire, si on regarde ce qui se vend le plus sur la Terre, ce n'est pas la thérapie. C'est beaucoup de porno, donc plaisir immédiat, beaucoup de drogue, plaisir immédiat, beaucoup de plastique, plaisir immédiat. Écran, t'as vu la consommation d'écran? Les gens, ils ont tous 3-4 écrans chez eux. Tu vois, avant, moi, la télé, quand j'étais petit, on a eu la télé, je devais avoir 6-7 ans. Maintenant, c'est une consommation. Donc, je ne vois pas les gens consommer de la thérapie ou de la conscience de soi. La plupart des gens consomment des choses qui vont leur donner un plaisir immédiat. C'est que les gens, ils préfèrent investir dans le plaisir immédiat, même si ça fait souffrir après, ce qu'on appelle kama en sanskrit, le kama, le plaisir immédiat, plutôt que de travailler sur eux et développer un bonheur qui est dans la conscience. Mais ça a toujours été comme ça, je crois. Je crois que ça a toujours été comme ça. La majorité des gens sont attirés par ce qui va les empêcher de souffrir, parce qu'ils souffrent. Donc le plaisir, c'est un peu une sorte de compensation à la souffrance d'être dans cette planète, là, de travailler dur.
Oui, mais c'est une illusion. Puisqu'on voit
c'est
bien
pas une illusion.
Ça ne va pas nous...
Oui, mais c'est
ça
pas une illusion.
Ça ne va pas régler le problème de notre
c'est
souffrance.
Ce n'est pas une illusion dans le sens où il y a vraiment un plaisir temporaire, mais il y a un plaisir. Quelqu'un qui va regarder du porno, ou qui, je sais pas quoi. Il y a un plaisir, il y a une excitation, un plaisir. Il est temporaire, il a un début, un milieu, une fin, il amène ultimement à la frustration, à la colère, à la perte d'intelligence, je suis d'accord, mais il existe le plaisir. Il y a quelque chose, derrière il y a une souffrance énorme qui va continuer, ça ne va pas la changer, mais ce n'est pas juste une illusion, il est là le plaisir. Par contre, le plaisir, il vend quelque chose qui est une source de souffrance. En Inde, ils disent tout plaisir amène une souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre du plaisir, mais le plaisir pour le plaisir amène de la souffrance. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger des bonnes choses, c'est bien de manger des bonnes choses, mais on les mange... C'est du plaisir, mais c'est aussi pour se nourrir. Donc il y a une conscience dans qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on dit. Tout ça, c'est si on veut que le plaisir immédiat, derrière, il y a souvent de la souffrance.
Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Me doy el perdón si me lastima el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Esta es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro.
C'était Mi Revolución du groupe Cuatro Pesos de Propina. Vous écoutez Les Enfants du Nouveau Monde avec Lionel Santucci, qui est coach en communication transformative. Nous parlons avec lui de la conscience et des pièges que l'humain rencontre sur ce chemin d'évolution, notamment la recherche du plaisir immédiat.
L'état de la planète, je pense que c'est un symptôme de cet asservissement au plaisir immédiat. Ouais. Tout de suite.
Tu penses que ça vient nous mettre ça en face du nez là pour
Je pense que les gens ont besoin de plus en plus de plaisir immédiat parce qu'ils sont dans une sorte de dépression permanente. Ils ont perdu leur identité, ils ne savent plus qui ils sont. Il y a une sorte de crise mondiale de l'identité. Il y a 200 000 tentatives de suicide en France par an. On est les plus grands consommateurs d'antidépresseurs. Bon, je crois qu'on est passé, on nous a passé devant, mais ce n'est pas qu'on a descendu, c'est qu'il y en a qui nous dépassent. Le monde est en train de bouffer de l'antidépresseur, de l'anxiolytique, des choses comme ça, parce que les gens ne vont pas bien. Et au lieu de faire face à cette situation, changer de cap, quoi. On continue le même cap en nous parlant de développement économique, de travail, de chômage. Alors que ça fait des milliers d'années qu'on fait ça, ça nous amène en enfer. Mais on continue.
Et donc, comment tu l'interprètes, ce truc-là?
Les gens, ils compensent par le plaisir, parce que c'est tellement désespérant qu'ils compensent par le plaisir. Donc, pour le plaisir, ils consomment. Ils consomment pour compenser. Donc, plus ils consomment, plus ils compensent. Plus ils compensent, plus ils consomment. Et le résultat, c'est qu'on bouffe la planète à compenser. Donc, il y a un problème de base
qu'on
ne veut pas aller voir.
Qu'est-ce qu'on compense? C'est quoi qu'on compense?
On compense
qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on voudrait? À quoi on aspire, l'être humain?
Les gens sont désespérés. Et ils compensent pour oublier ce désespoir.
Oui, mais qu'est-ce qui les nourrirait? Qu'est-ce qui leur permettrait justement d'apaiser ce désespoir et de le combler d'une paix? La conscience.
Tout ce qui amène à la conscience détruit le désespoir. Tout ce qui amène à la conscience donne justement, c'est l'inverse du désespoir. La conscience ne mène même pas à l'espoir, elle mène à une expérience consciente de vie. Quand quelqu'un est conscient, il commence à goûter un vrai bonheur. Il n'y a pas de bonheur et de plaisir et de paix du mental sans conscience. Et il n'y a pas de bonheur et de plaisir sans paix du mental, c'est pas possible. C'est pour ça que toutes les voies spirituelles, tous les enseignements qui amènent à la paix passent par la conscience. La base, c'est la conscience. Et la conscience quoi? La conscience du divin, la conscience de la nature, la conscience de l'immensité de l'univers, la conscience de quelque chose de plus grand que nous. En Inde, ils parlent de la conscience de l'infiniment fascinant. Si on regarde autour de nous, c'est fascinant. T'as vu où on est là? Tu regardes une pomme, t'as vu tout à l'heure on ramassait des poires. Tu manges une poire, t'as vu le goût de la poire?
C'est une merveille.
Et le cuisinier qui a cuisiné la poire là. On va nous dire c'est le hasard, je veux bien, mais même s'il s'appelle hasard et que Dieu s'appelle hasard, je veux bien. On va appeler hasard, s'il n'y a pas de problème, on peut l'appeler hasard. Mais n'empêche qu'il est bon le cuisinier.
C'est vrai.
Donc, quand tu manges une poire en conscience, tu la dégustes et tout, c'est pas comme si t'englutines une poire qui a été trafiquée par les humains et qui ne goûte que le sucre. La poire trafiquée par les humains ne goûte que le sucre parce que c'est une compensation de sucre. La poire que tu accueillis, c'est des variétés anciennes de fruits. Tu manges la poire, il y a un truc qui explose. Poire est unique, toi. Mm-hmm. C'est pas qu'une variété de poire. Donc il y a quand même quelque chose au niveau du bonheur et du plaisir qui est différent là. Et si les gens ils consomment parce qu'ils sont désespérés, ils sont désespérés parce que en fait il n'y a pas la réponse à leur question fondamentale de qui suis-je.
Celle que tu avais, toi, t'imagines, qui t'a poussé à parcourir le monde.
Vivre sans te demander qui tu es, ça veut dire que tu vis comme un animal. Mais tu as la conscience d'un être humain, donc tu vas mettre toute ton intelligence, tout ton cerveau, qui est énorme par rapport à ceux des animaux, au service de cette compensation à ne pas avoir la réponse.
Ouais, ouais.
Donc ça veut dire que tu vas développer une intelligence extraordinaire pour oublier cette question, puisque tu n'as pas la réponse. Donc ça veut dire que tout va être axé sur justement ce plaisir et cette compensation pour éviter de se poser la question. Donc en fait, les gens, ils vont dans des tas de trucs. C'est une sorte d'asservissement de la conscience. Justement, on éteint la conscience avec tous ces produits pour justement plus se poser la question, parce que la nature de l'homme, c'est de se poser la question. Et tu vas dans des groupes de gens qui sont vraiment inconscients, qui passent leur vie à compenser. Tu leur poses même la question, ils disent, mais il est malade ou quoi, lui? T'es fêlé ou quoi? Pourquoi je lui ai posé la question? On va tous crever, quoi. T'imagines la vie que tu as, si tu penses que tu vas juste crever. Ben voilà, le résultat, c'est la planète, quoi. Donc c'est un problème de conscience. C'est pas un problème d'écologie, c'est un problème de conscience. Et les écologistes, ils peuvent se battre, on s'est battu, on s'est rebattu. Ça va pas solutionner le problème tant que l'écologiste, il prend pas conscience que le problème, c'est pas l'écologiste, c'est sa propre conscience, ma propre conscience.
Tout à fait.
C'est là qu'il est le travail, c'est pas dehors. C'est la conscience, c'est le symptôme de l'être vivant. Tout être vivant est conscient, plus ou moins. Et l'humain, il a cette capacité de développer sa conscience. C'est le propre de l'être humain. Il peut répondre à ces questions en développant sa conscience. Tu vois, un arbre, souvent je donne cet exemple, un arbre, il se pose des questions. Un arbre, regarde dans la forêt, les arbres, comment ils poussent, tu vois, à côté, ils montent en hauteur parce qu'ils cherchent le soleil. Donc l'arbre, il se dit, où est le soleil? Quand il voit qu'il est entouré d'arbres, il va monter pour trouver le soleil. Regarde l'arbre, là, il n'y a pas d'autre arbre à côté de lui. Il cherche où est le soleil et
il s'expande dans toutes les directions.
Les branches s'écartent parce que la réponse, elle est là, elle n'est pas à la hauteur. Donc il répond différemment, lui, cet arbre, à celui-là. Si on regardait les racines, on verrait, là où il y a de l'eau, il va faire des petites racines. Là où il n'y a pas d'eau, il va profond. Donc, l'arbre se pose la question, où est l'eau? Où est la lumière? Il s'en pose peut-être d'autres, mais en tout cas, où est l'eau et la lumière? Et il a le corps parfait pour y répondre. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il se pose cette question. Si l'humain se pose la question, qui suis-je? Ça veut dire qu'il a forcément le corps pour y répondre. Donc, ouais. Ce corps, ça doit être un moyen de répondre à la question. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il y a le yoga, il y a toutes les voies spirituelles, utilisent le corps. Mm-hmm. Parce que le corps, c'est l'outil qui va nous permettre de répondre, en fait. Ouais. Mais la plupart du temps, les gens, au lieu d'utiliser l'outil pour nous répondre à cette question, ils servent l'outil pour prendre du plaisir. Ouais. Tu vois, c'est comme si l'arbre, au lieu d'aller chercher l'eau et le soleil, il se mettait à se poser plein de questions et à essayer de jouir en combattant l'arbre d'à côté, en essayant de couper l'arbre d'à côté pour avoir le soleil sans, sans répondre lui-même. Tu vois. L'humain fait ça, c'est complètement aberrant le truc. Au lieu de trouver sa réponse en lui et d'aller vers là où il va aller, il va commencer à envier les autres. Il utilise toute son intelligence pour ce plaisir. Quoi. Ouais. Du coup, il perd sa propre identité, sa propre capacité à répondre à la question.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu un phénomène aussi d'être hypnotisé par l'extérieur et d'avoir du mal à tourner le regard vers l'intérieur? Parce que c'est vrai qu'on a un regard qui se porte quand même vers l'extérieur depuis le petit nourrisson.
Ouais, mais même si on regarde l'extérieur, on ne le voit pas. Tu vois, la plupart des gens, ils ne voient pas. Mm. Je veux dire, quelqu'un qui va dans la plupart des gens qui se baladent dans la nature, que je connais, qui aiment voir la nature, qui regardent la nature, ils sont vachement conscients. Mm. Il y a des gens, ils n'ont pas de voie spirituelle, ils marchent dans la nature et ils deviennent conscients.
Oui.
En Afrique, ils disent « Kudultuki duramfu dekenere ». Celui qui ne voyage pas ne connaît pas la vie. Ça veut dire celui qui ne sort pas de sa zone de confort ne se connaît pas lui-même. Voyager, ça veut dire sortir de la zone de confort. Quelqu'un qui va se balader dans la forêt, tout seul, il va se balader en dehors des sentiers, et qui s'arrête et qui regarde, il va se connaître, il va se trouver. Hein.
Il n'y a
pas que l'église et le temple. Il y a aussi la nature, je veux dire l'univers. Je ne sais pas, tu te couches sur la terrasse là ce soir et tu regardes les étoiles. Je te laisse, tu regardes les étoiles. Je reviens une heure après que tu regardes les étoiles. Tu auras une autre conscience que si je te mets dans le métro à Paris, tu vois.
C'est sûr.
Parce que, et quand tu es dans le métro à Paris, tu as intérêt à pas trop regarder, parce que sinon c'est le flip. Donc les gens, ils deviennent aveugles, quoi. Donc c'est vrai qu'après, quand ils vont dans la nature, ils ont du mal à voir. Mais n'importe quel être humain qui s'apaise et qui regarde vraiment l'univers, la planète, tu as vu la Terre, où elle est, c'est l'équilibre parfait, le truc de fou, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être ingénieur et faire un doctorat pour voir qu'il y a quand même une science là derrière qui génère tout, qui donne un équilibre parfait. Qu'on n'a rien fait, nous, pour ça. L'humain n'a rien fait.
Tout à fait.
Si, il a détruit. Mais on n'a rien fait pour que cette planète, elle tourne. Il y a quand même un minimum de reconnaissance, quoi. Le truc, il est parfait. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir étudié les Védas ou pour voir qu'il y a quand même une conscience derrière qui gère tout ça, et c'est assez merveilleux. À moins qu'on pense que, je ne sais pas, il y a un être démoniaque qui a créé tout ça pour nous faire souffrir. Mais il n'aurait pas fait des fleurs comme ça ou des fruits aussi bons. C'est marrant, les fruits, t'as vu, on a mangé des poires, mais ce qui est important pour le poirier, c'est pas ce qu'on mange, le fruit,
c'est la graine
graines.
Qu'on jette. Donc jusqu'au petit rognon qu'on va jeter au sol.
T'imagines l'intelligence du personnage,
c'est
là.
Encore du précieux, c'est même le plus précieux.
Celui qui a inventé ça, non seulement c'est un génie, mais c'est forcément un enfant.
Oui.
Je veux dire, c'est pas un adulte qui pense comme un adulte en business, négociant, plaisir.
Mais parce qu'il a même imaginé que les oiseaux qui mangeront les fruits, quand ils vont chier les graines, ça va les planter.
Ça veut dire que le gars, c'est comme un enfant. C'est comme un enfant qui fait un dessin, si tu veux.
C'est vrai.
Un enfant fait un dessin. Peut-être que pour un adulte, c'est absurde, mais pour l'enfant, ça a plein de sens. Il y a plein de magie là-dedans. Un enfant qui a pas été trop matraqué par ses parents. Donc, quelque part, si on regarde la nature, on va voir qu'il y a un enfant qui a dessiné tout ça. Je pense que c'est un enfant. Moi. Quelqu'un qui n'était pas dans ce monde des adultes, il a généré tout ça, il a rigolé. Il a dit, tiens, je vais faire un fruit. Les autres qui vont manger le fruit vont pas manger. C'est amusant, c'est presque.
Bien,
je pense que quelqu'un qui met conscience là-dedans, il y a énormément de joie et de bonheur.
Oui, il y a de l'émerveillement qui,
exactement.
Qui revient.
Là, des fois, il y a des écureuils qui viennent se balader, il y a des biches, il y a des trucs comme ça. Mais tu vois l'écureuil, comment il s'approche de la maison, mais c'est le délire, quoi. L'écureuil, l'autre fois, j'en ai surpris un, il a fait un bond, c'est comme dans les bandes dessinées, il y a tous ses poils qui se sont hérissés. Trop il se retrouve avec deux noisettes dans la main, tu vois. Mais vraiment comme dans les cinémas.
T'as des cartoons.
Exactement, j'étais mort de rire. Il y a tout ça. Après, t'as mon chat, des fois, qui chope un oiseau. Bon, on pourrait dire, oh, c'est dur et tout. Mais n'empêche que le chat, il est super câlin. Il a mangé son oiseau. Il sort d'équilibre. On manque pas d'oiseaux parce que les chats mangent les oiseaux. On manque d'oiseaux parce que l'humain, il les mange pas, mais il les tue avec des produits. Nous, on tue, mais on tue pas pour manger l'oiseau. On tue pour faire des champs de je sais pas quoi avec
gavé de pesticides.
Exactement.
Donc, où il y a plus d'insectes et comme il y a plus d'insectes, il y a plus d'oiseaux.
C'est absurde.
On est fou.
C'est absurde. Tout est réglé à la minute. On a une horloge là qui fonctionne et nous on va se prendre plus horloger que l'horloger de départ et on va commencer à dérégler le système et après quand il est déréglé on dit on va réparer. Ouais. Nous, on est grands, on va réparer. On a contaminé la planète, on a tout pourri. On va réparer. Et les systèmes de réparation génèrent encore plus
de problèmes.
Puisque l'intelligence qui veut réparer est la même qui a créé le problème. C'est Einstein qui dit la pensée qui crée le problème n'en a pas la solution. Mmh. Et tant que l'humain n'a pas compris que la solution, elle n'est pas dans la pensée humaine. L'humain n'a pas la pensée pour sauver la planète puisqu'il l'a détruit. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux. La pensée pour sauver la planète, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans l'être humain. Elle est dans la conscience spirituelle. Elle est quelque part qui dépasse l'humain. C'est pas dans ce conditionnement. Mmh. Il va falloir les connecter à quelque chose qui est supérieur. Tous les êtres conscients, ils vont pas chercher leur conscience dans la matière, ils vont pas chercher la conscience dans l'humain, dans l'humanité. Ils vont la chercher dans quelque chose qui est divin. Mmh. L'humain, il a cet accès au divin et à la matière, les deux. Ouais. Tant qu'on va chercher la solution dans la matière, on crée de l'embrouille. Quand on commence à chercher dans le divin, dans la partie divine de l'homme, qui est pas vraiment l'homme, c'est plutôt l'être vivant, c'est amour, c'est vrai amour. C'est un amour qui est non conditionné, non business, pas partiel, pas artificiel. Mais cet amour, c'est pas la même énergie, c'est pas une énergie qui vient de la matière, c'est une énergie qui descend, quoi. C'est comme toute cette création. Mmh. Et quand on va aller chercher là-dedans, on va être obligé d'être en équilibre. D'ailleurs, n'importe quelle personne qui vit dans la nature, quelqu'un qui veut vivre dans la nature, il va être obligé de s'harmoniser avec la nature. Mmh. Et c'est pas lui qui choisit, c'est pas lui le boss, c'est la conscience de la nature qui va lui imposer. Si t'es dans la nature, tu vas pas manger des pommes au mois de mai, tu vois. Mmh. Que tu le veuilles ou non, t'en mangeras pas parce que la nature te donnera pas de pommes. Donc c'est elle qui choisit. Mmh. Et accepter ça. C'est devenir conscient en harmonie, en symbiose. Mmh. Et moi, je crois que la solution, elle est là, de commencer à écouter la nature et au lieu de nous contrôler le truc, se laisser contrôler par la nature, laisser faire. Ouais. Bon, mais il y a des maladies. Oui, il y a des maladies. Aujourd'hui, on fait des vaccins, on fait tellement de choses pour sauver l'humain et c'est merveilleux ce qu'on a fait pour...
C'est l'humain qui finit par se tuer parce qu'il est trop déprimé.
Et en même temps, non, mais le truc, c'est qu'on va faire des vaccins, des choses extraordinaires, tu vois, qui vont soigner des gens. C'est quand même extraordinaire. Même si je ne suis pas pour le vaccin à 100%, je reconnais que ça a sauvé des millions de gens. Mmh. Et en même temps, on fabrique des bombes qui tuent des millions de gens, tu vois. Ouais, ouais. Donc, tu as le laboratoire qui fabrique les produits chimiques pour faire des bombes.
Éliminer les insectes.
Et en même temps, tu as à côté le même laboratoire qui fabrique les mêmes produits chimiques pour balancer sur les champs, pour tuer les insectes.
Voilà. Et juste à côté, parce que c'est avec les mêmes produits chimiques, quasiment.
Et l'humain, le scientifique, l'humain, le gouvernant, le politicien, il ne le voit pas, mais on est gouverné par des fous, quoi. On joue avec des choses qui...
Tu crois vraiment qu'il ne le voit pas ?
Je veux croire qu'il ne le voit pas. De toute façon, moi, je ne crois rien. Je vois ça. Je vois qu'il ne le voit pas. Parce que s'il le voyait,
il ne
pourrait pas le faire. Donc, c'est qu'il ne le voit pas. Et même si les gens ils disent c'est une manipulation, même s'ils manipulent, s'ils ont un plan démoniaque... Ouais. J'ai des doutes. Et ben ça veut dire quand même qu'il le voit pas. Mm-hmm. Parce que pour être démoniaque, il faut pas voir la réalité.
Ouais.
Parce que être démoniaque, ça veut dire que t'es complètement dans l'illusion. Mm-hmm. Parce que le plus grand des démons, il aura jamais, jamais le dernier mot. C'est impossible. Il aura jamais le dernier mot dans l'absolu parce que c'est pas le créateur le démon, c'est le destructeur. Donc le créateur lui-même, si tu le détruis, il recréera, tu vois. S'il y a une création, tu détruis toute l'humain peut tout détruire.
Ouais, tout se reconstruira. Saccager sa planète.
Tout se reconstruira.
La nature retrouvera son équilibre.
Il y aura peut-être plus des êtres humains et encore j'en suis pas sûr parce que l'arche de Noé et tout. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la nature elle réciproque quand même en ce moment. C'est-à-dire que pour moi, la nature elle a un langage. Quand les gens disent il y a des ouragans et tout, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une conscience de la nature qui dit oh, une petite baffe et vous êtes tous morts, quoi. les mecs, ils pensent que on va après, oui, attention, gros ouragan, et les gens, ils sont là, oui, on a perdu toute notre maison, on est là. Oui, je sais, c'est des victimes, les gens. En même temps, on a contaminé toute la planète. Elle a le droit de dire, allez vous faire voir aussi la planète,
bien
tu
sûr,
vois, la Terre. En Inde, ils disent que le Bhumi, c'est la Terre. Il y a une seule chose qu'elle ne tolère pas, la Terre, c'est quand on n'est pas intègre. Tout le reste, elle le tolère. Tu vois, elle tolère plein de guerres, de choses, mais le mensonge et la non-intégrité, elle ne tolère pas. Ils disent que le mensonge et la non-intégrité font le tour de la Terre et tu te le reprends quand elle a fini de tour, ton mensonge.
Ouais.
Mais en ce moment, on est en train de se reprendre notre non-intégrité en relation avec la Terre. Tu vois, donc il y a des choses qui reviennent.
Ça fait boum.
Mais c'est un dialogue qu'on a avec l'univers, avec la Terre. La Terre nous dit, ça va pas les mecs, vous avez détruit je sais pas quoi. Allez, un petit ouragan par-ci, un petit machin par-là. Après, je sais même pas si c'est vrai. Je sais même pas la vérité. Ce que je vois, c'est qu'il y a des catastrophes, qu'il y a de plus en plus de gens qui tout le système de contraception, les trucs comme ça, on devient complètement, on banalise tout plein de choses qui sont des assassinats, la consommation de la viande, des animaux, une sorte de banalisation de tout ça. Et ça génère une perte de conscience. Mmh. Et les résultats, je ne suis pas sûr que ce soit seulement ce que la nature nous dit, mais moi je pense que le pire, c'est la conscience humaine qui se perd là-dedans. C'est-à-dire qu'on devient inconscient, quoi. C'est-à-dire qu'on continue la même chose en pensant que ça va avoir un résultat différent.
Tu as l'impression qu'il y a un phénomène de perte de conscience ou d'élévation de conscience en ce moment ?
Non, perte de conscience.
Ah oui, c'est ça, toi, que tu vois.
Je pense qu'il y a un phénomène de perte de conscience dans la masse.
Par rapport à avant ?
Comme toujours, il y a toujours eu des gens, je veux dire, on parle du Christ par exemple, le Christ, notre culture, le Christ, on est un pays qui a été chrétien pendant des milliers d'années, même si le Christ, il n'a jamais vécu là, ou alors, j'en sais rien. Et il y avait des gens qui l'ont crucifié quand même.
Ouais.
Donc, il y avait de la conscience, puisqu'il y avait le Christ, et des chrétiens. Et puis il y avait des gens qui étaient antichrist, quoi. Donc ça a toujours existé.
C'est la planète de la dualité, cette
Terre. Exactement, ça n'a jamais changé. Donc moi, c'est sûr, j'habite dans la nature avec des gens qui sont dans l'écologie et tout. Donc tous les gens que je connais ici, je pourrais dire il y a une évolution de conscience. Ouais. Mais si je vais dans le 93 faire du porte-à-porte, tu vois, comme je faisais avant pour vendre des bouquins religieux, spirituels, je faisais ça avant. De la Bible ou je sais pas, d'autres bouquins. Et enfin, je vendais plutôt la Bhagavad Gita, des ouvrages de l'Inde. Et que je frappe aux portes, je vais voir la misère humaine. Et là, je vais dire, ouf, il y a du boulot, quoi. Quand je prends l'avion pour aller en Amérique du Sud, que je suis à l'aéroport et je vois toute cette consommation de produits de luxe, là, tu vois, dans les aéroports, il y a plein de produits de luxe. Je désespère, je me dis, en fait, non.
On n'est pas dans l'évolution de conscience.
On n'est pas dans l'évolution. Par contre, quand je suis ici avec des gens qui sont dans les... Tiens, il y a une recherche d'évolution de conscience. Donc, je sais pas la vérité, moi.
Ouais.
Parce que c'est influencé par mon observation à moi.
Sometimes it takes a rainy day just to let you know everything's gonna be all right. I know all right. Filling up and spilling over an endless waterfall. Filling up and spilling over all. Filling up and spilling over, it's an endless waterfall. Filling up and spilling.
L'humanité est-elle en train de s'enfoncer dans l'illusion matérialiste ou bien au contraire d'en sortir? On en parle avec Lionel Santucci, coach en communication transformative.
Quand on parle de conscience, il y a du coup la notion d'illusion, donc, qui est l'inverse de la conscience. Et puis moi j'ai parfois du mal à faire la distinction entre idéal et illusion. Comment tu ferais cette distinction? Parce qu'on a des idéaux.
Qu'est-ce que c'est l'idéal?
Un idéal qu'on aimerait atteindre, qui pourrait être aussi un peu de l'ordre du rêve. Par exemple, de créer un paradis sur cette planète où tous les humains vivraient en paix.
Ah, ça, tu penses que c'est un idéal, ça ?
Oui.
Pour moi, l'illusion, c'est par exemple, tu vois, cet exemple est donné dans les écritures indiennes, c'est, tu vois, le serpent, il existe, et une corde, ça existe. Si tu marches sur une corde et que tu as peur que c'est un serpent, c'est une illusion. C'est-à-dire, dans l'illusion, il y a deux choses qui sont réelles, qui existent, mais j'en prends une pour une autre. C'est ça, l'illusion, pour moi. C'est comme quelqu'un qui fait des...
C'est de confusion, alors. Ouais.
C'est l'illusion, je prends une chose pour une autre. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui pense que cette planète va être un paradis, le paradis existe peut-être, la planète existe, mais de croire que ce monde va être un paradis, c'est une illusion. Ou que c'est un paradis, c'est une illusion. Ça n'est pas un paradis, il y a de la mort, il y a de la vieillesse, il y a de la maladie, etc. C'est juste deux choses qui sont confondues, l'illusion, pour moi. Après, l'idéal que tout le monde veut être heureux et voudrait vivre au paradis, je pense que ça, c'est pas juste un idéal, c'est la nature de l'âme, de l'être. Parce que l'être est par définition heureux, éternel, et c'est une énergie quoi. Donc cette énergie, sa nature, c'est le bonheur, c'est d'être heureux. Donc forcément, on aimerait le vivre. Après, de penser qu'on va le vivre dans les conditions où on est aujourd'hui, j'ai des doutes, et même je doute qu'on puisse le vivre dans ce monde-là, parce que penser qu'on va le vivre dans ce monde-là, c'est l'illusion. C'est pas un idéal, c'est une illusion. Et c'est de l'ignorance aussi. Parce que tout ce qui regarde, tout meurt. Tu vois, tu regardes un arbre, il donne ses fruits, puis il meurt après, ou une plante. Donc la maladie, la vieillesse et la mort, c'est inévitable. Dans ce monde, c'est la nature de ce monde. Donc de penser qu'on va être éternellement heureux dans ce monde et l'idéal, le paradis, le paradis, pour moi, c'est la vie éternelle. Ben là, il y a une illusion forte quand même. Résister à ça, résister à la mort, résister à la nature de ce monde, c'est créer encore plus de problèmes que la mort.
Il y a une acceptation là qui est vraiment fondamentale.
Ben, s'il y a un refus du contexte, c'est-à-dire si tu vis dans un monde qui a, tu refuses le contexte du monde, c'est un peu comme si tu joues dans un jeu, tu refuses les règles du jeu, tu joues plus quoi, tu es hors jeu quoi. Et l'humain il refuse les règles.
C'est le symptôme là actuellement, est-ce que c'est pas ça justement ?
L'humain refuse la mort, ouais. Il refuse la maladie, la vieillesse, la mort. Ils sont en train de fabriquer, ils veulent être éternels les mecs, parce que l'âme est éternelle. Sauf que ce corps lui, il est matériel, donc il y a une illusion, on prend une chose pour une autre. Et c'est l'âme qui projette ça. Là, mais le projet de ce désir d'éternité. Mais les mecs, ils veulent contrôler, ils veulent devenir Dieu, quoi. Les mecs, ils sont athées, ils croient pas en Dieu parce qu'ils pensent qu'eux, ils sont Dieu, tu vois. Les gens, ils me disent, c'est moi Dieu. Je dis, fais-moi un œuf. Il commence à y avoir un problème, tu vois. Juste faire un œuf, pourtant, un œuf, une poule, c'est pas Dieu, elle sait le faire, tu vois. Mais nous, l'humain, on n'est pas capable de faire un œuf, tu vois. Donc, c'est rigolo le concept de cette lutte permanente dans le contexte de la vie. On lutte contre ce qui est notre terrain de jeu, quoi. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme si on joue, tous les deux, on va faire un jeu, on joue aux cartes, et puis toi, tu changes les règles, tu vois. Je vais dire, moi, je ne joue plus avec toi. Mm-hmm. On peut plus jouer.
Bien sûr.
On peut plus jouer. Bien Donc, sûr. On nous donne un terrain de jeu pour faire des choses, pour réaliser qui on est, pour vivre une expérience humaine, etc. Et une expérience humaine, parce que, comme dit Teilhard Desjardins, qui s'appelle, qui dit, nous ne sommes pas des êtres humains faisant l'expérience spirituelle, mais des êtres spirituels faisant l'expérience humaine. Donc, on vient faire l'expérience humaine dans un contexte, et nous, on fout en l'air la règle du jeu, tu vois.
Peut-être parce que, justement, on a oublié qu'on est là de passage à jouer à ce jeu, et peut-être qu'il y aura d'autres jeux. Est-ce que ça nous permettrait d'accepter un peu mieux ces règles ?
Alors, parce que le mot oublier me dérange, parce que si on l'a oublié, c'est quand on le savait à un moment. Si on le savait à un moment, je ne vois pas comment on peut l'oublier, par définition. Si tu sais ton identité, qui tu es, et que tu es conscient, un être conscient, etc., comment tu peux l'oublier ? C'est paradoxal ce truc, c'est pas possible qu'on l'ait su ce truc.
Alors peut-être qu'à ce moment-là, il est temps de le découvrir très vite pour pouvoir nous aider justement à accepter ces règles et arrêter de saboter le jeu, quoi.
C'est la conscience. Donc le travail, c'est pour moi le travail, c'est justement que moi je devienne conscient déjà. Donc je sois conscient à chaque seconde de mon identité réelle et que je vive en fonction de cette identité réelle, pas en fonction d'une identité illusoire. Et que je vive dans la nature en acceptant que oui, c'est temporaire, c'est pas un truc qui va durer toujours. Donc arrêter de me lutter. Parce que les gens luttent contre le contexte humain et après ils font un drame de leur vie, tu vois. Parce que comme le contexte humain est douloureux, donc quand il leur arrive un truc, ça devient dramatique, tu vois, ça devient un drame, tu vois. Et c'est dramatique parce que ça les touche eux, parce que quand ça touche quelqu'un d'autre, ils sont pas tant dans le drame que ça. Donc ils font un drame de leur propre histoire égotique, là. Et en fait, c'est la nature même de ce monde. Je dis pas qu'il faut pas améliorer les conditions de vie, c'est mieux d'habiter dans une maison avec un toit que d'habiter dans une grotte, et encore que ça dépend de la grotte.
Dans un bidonville, ou
dans un bidonville. Je ne dis pas qu'il ne faut pas améliorer et changer certaines choses, mais en respectant le contexte humain. Enfin, le contexte humain et le contexte de la nature.
Du coup, toi, dans tes séminaires, tu mets pas mal d'intention là-dedans, c'est-à-dire remettre les gens en face de ces règles de base.
Moi, dans le séminaire, j'ai des processus pour permettre aux personnes de prendre conscience de ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire prendre conscience des habitudes qu'ils ont, qui ne fonctionnent pas dans leur vie et qui vont pas les rendre heureux. Et quand ils ont conscience de ça, on peut travailler sur développer d'autres habitudes qui vont les rendre heureux. Et comme c'est en notion avec être heureux dans le bonheur, ça va forcément aller vers la paix, vers l'amour, vers la conscience. C'est lié, quoi. Donc les gens, si tu veux, moi je les piège, les gens. Je leur montre, regarde, même des gens qui sont hyper écolos et tout, je leur montre qu'ils sont pas du tout à l'intérieur écolo, tu vois. En eux-mêmes, tu vois, on fait des jeux, des trucs comme ça où les gens ils prennent vraiment une baffe, quoi. Ils se disent, oh, putain, je croyais que j'étais un mec vachement libre et tout. En fait, je suis pas du tout libre penseur, je pense comme on m'a conditionné. Mais tant qu'on pense qu'on est libre penseur, ben on n'est pas libre. Quand je commence à me dire, tiens, en fait, je suis pas un libre penseur, on commence à se libérer. Et c'est complètement fou le truc. Quand je commence à réaliser, en fait, je suis pas libre penseur, je suis conditionné par mes pensées. Donc pour devenir libre penseur, il va falloir que j'arrête de penser quelque part. Donc je suis plus libre penseur, je suis libre tout court, tu vois. Et après, quand je commence à être libre tout, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire libre ? Je suis toujours enchaîné à quelque chose. Et cette acceptation petit à petit de ne pas être ce qu'on croit qu'on est, fait qu'on devient ce qu'on est réellement. Et ce qu'on est réellement, c'est bien plus grand que ces idéologies et ces philosophies de je suis libre penseur, je suis libre.
Je veux bien que tu développes un peu sur la liberté. Sur la notion de liberté. Parce que peut-être que là aussi, il y a beaucoup de confusion dans notre société sur la question de la liberté. On se croit libre de tout faire et du coup...
La plupart des gens pensent que la liberté, c'est faire n'importe quoi quand je veux, quand j'ai envie, quand mes sens me le disent, je vais manger un kilo de glace parce que j'ai envie de manger un kilo de glace, sauf qu'après j'ai mal à l'estomac, donc je ne suis pas libre. Si j'étais libre, je pourrais manger 10 kilos de glace sans avoir mal à l'estomac. Donc la liberté, c'est pas manger 10 kilos de glace ou je sais pas, même faire l'amour. Toi, les gens sont vachement dans le sexe maintenant. Et donc, je vais faire l'amour. Mais il y a une limite. Un moment que tu as fait l'amour, pendant je sais pas combien de... Peut-être il y a des gens qui t'aiment peut-être 5-6 heures, j'en sais rien. Mais il y a un moment, tu t'arrêtes parce qu'il y a une limite. Donc, il n'y a pas de liberté. Il y a un moment où cette liberté, elle te ramène à la réalité qui est t'as tes limites, ce que j'appelle le contexte humain. Donc pour nous, dans la communication transformative, la liberté, enfin pour moi, c'est très lié à la responsabilité. En fait, c'est la responsabilité qui va me rendre libre. C'est-à-dire que la responsabilité, c'est cette habilité à répondre. C'est que la vie me propose des trucs. Elle me propose, par exemple, la vie, elle m'a proposé, tiens, tu veux vivre dans cette maison? Et je peux répondre oui ou non. Donc, c'est ça ma vraie liberté, c'est de répondre oui ou non, mais dans le contexte qu'on me propose. Et si j'ai de la conscience et j'ai de la connaissance, je vais donner la meilleure réponse pour être satisfait et heureux. Mm-hmm. Je ne vais, pas donner n'importe quoi. Et pour avoir une conscience, pour donner la meilleure réponse, il va falloir que je la connaisse la réponse. Il va falloir que je connaisse les conséquences de ma réponse, mm-hmm. que je sois conscient de ma réponse. Donc, c'est-à-dire que ma communication, ma réponse va être consciente, et en étant consciente, elle va apporter plus de conscience. Et c'est ça la responsabilité, c'est cette capacité à donner une réponse consciente.
En fonction de nos propres limites.
Oui, en fonction de l'environnement, en fonction du contexte, pour maximaliser la réussite, le bonheur. Parce que c'est un peu comme si on te donne un mauvais bagage, hein, c'est quand même un mauvais bagage, le corps humain il va vieillir, etc. Mais d'en faire le meilleur usage. Et pour en faire le meilleur usage, ça demande d'avoir des réponses. Et plus tu auras de réponses possibles, plus tu seras libre. Mmh. Mais le contexte lui-même, c'est pas moi qui le choisis, j'ai pas la liberté de choisir la question. Mmh.
Presque rien, juste un pas, et venir plus près. D'autres liens, d'autres voies, au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit d'un premier regard. L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard, et peut tout changer. Donne à ta vie sa vraie valeur. Redonne à ce monde toutes ses couleurs. Presque rien, un silence qu'il faut écouter. Un chemin, une chance qu'on peut partager. Pas de doute, pas de peur. Avancer, fais ta route, il est l'heure, tu dois essayer, tu dois tout changer.
Tant qu'on parle justement de liberté et de règles et de cadres, j'ai trouvé que dans ton séminaire, il est très cadré, il y a des règles très précises sur lesquelles tu insistes avec beaucoup d'autorité. Justement, est-ce que c'est pour ça? C'est pour nous remettre en phase?
Parce que le cadre crée la liberté. C'est comme, tu vois, il y a un code de la route par exemple. Quand il y a un code de la route, tu peux aller d'ici à Paris en sécurité. S'il n'y avait pas de code de la route, tu ne serais pas libre d'aller. Donc c'est ce cadre qui permet d'être libre. Les gens pensent que, c'est Winston Churchill qui dit, les 25 premières années de ma vie, j'ai pensé que le but de la vie c'était être libre. Okay. Les 25 suivantes, j'ai pensé que le but de la vie, c'était être responsable, prendre responsabilité. Et les 25 dernières, je me suis aperçu que la responsabilité, le cadre, cette responsabilité, c'est la liberté. Ça veut dire que la liberté, elle vient pas de cadre, justement. Elle vient de, dans un cadre, on peut créer une sécurité qui nous permet d'être libre. D'où le code de la route. On crée un cadre pour circuler et du coup, chacun prend la responsabilité de suivre le cadre. Donc, cette responsabilité et ce cadre va nous permettre d'aller où on veut en voiture. J'ai roulé en Inde. J'ai conduit en Inde. Il y a une vingtaine d'années, j'étais allé en Inde.
C'est très spécial, le code de la route.
Conduire en Inde, c'est super parce que si tu suis... Déjà, personne ne suivait les règles il y a 20 ans. Donc déjà, si tu suis les règles, t'as l'air idiot parce que personne ne les suit. Donc, tu ne vas pas te baser sur les règles. En fait, j'ai compris au bout d'un an que je conduisais en Inde qu'il fallait redevenir un enfant. C'est-à-dire que les Indiens conduisaient à l'époque comme des enfants. Tu donnes à un enfant une voiture, ben, il te croise, il te dit salut, il fait demi-tour, il te court après. Tu vois. Un enfant, il fait ça. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai dit ok, prudence déjà parce que tu ne sais pas. Et puis après, je me suis dit ok, on va faire comme les gamins. Et en conduisant comme les gamins, j'ai eu 5 accidents en un an. Pas des grands trucs, mais 5 accidents parce que le comportement de l'autre n'était pas cadré. Il n'était pas cadré, il n'y avait pas de règle. Par exemple, on roule à gauche en Inde. Et puis tu roules, tu vois, tu es sur l'autoroute, donc à gauche. Et puis d'un coup, paf, tu ne sais pas pourquoi, il y a un mec qui arrive à contresens, mais à fond, à contresens, sur l'autoroute, tu vois, dans la ligne. Tu vois. Un truc que tu verras jamais en France, où tu vois ça, quelqu'un à contresens, les 107.7, là, il t'annonce ça tout de suite, attention, voiture à contresens, c'est le mec qui s'est planté. Mais en Inde, non, il s'est pas trompé. Et en plus, il klaxonne pour que tu dégages, parce qu'il est prioritaire pour lui, parce qu'il a un plus gros camion que le tien, toi. Tu vois, donc il n'y a pas de cadre. Donc ça demande d'aller chercher un endroit en soi où, de prudence énorme, rouler doucement, ça limite vachement, en fait, ça empêche la liberté, en fait. Donc c'est la liberté, mais il n'y a pas de liberté après.
Ouais, d'accord.
Et c'est marrant cette histoire de séminaire ou le cadre, parce que les gens au début ils ont un flip. Séminaire de base, t'as fait, il y a 6 règles. Séminaire avancé, il y a 20 règles. Mais c'est parce qu'il y a ces règles qu'on va aller à fond à l'intérieur.
Okay.
Ça crée une sécurité totale et on peut y aller, il n'y a pas de risque.
D'accord.
Et s'il n'y avait pas de règles sur la Terre, je te dis, je ne sais même pas si on serait là, s'il n'y aurait pas des types avec une mitraille, je ne sais pas quoi, qui nous menaceraient pour nous piquer notre maison. J'en sais rien. La loi est nécessaire.
L'époque féodale, où tu te faisais attaquer tout le temps.
Ouais. Puis le plus riche,
par le seigneur d'à côté.
Le plus puissant, voilà.
Il
y avait toujours des guerres, quoi. Donc, le cadre, les lois, la cadre, la règle, c'est tout ce qu'on appelle l'autorité, en fait, est supposé créer une harmonie, une paix. Mm-hmm. C'est pas toujours comme ça, mais supposé. Donc, dans le séminaire, c'est ça notre. On va créer une autorité avec un cadre qui est supposé permettre aux gens d'aller le plus profond possible en eux. C'est ça l'idée. Ce n'est pas une autorité juste pour écraser, c'est une autorité pour libérer, justement.
Mmh, ok.
C'est ça.
Très bien, merci. Et une autre question que je me posais par rapport à ton séminaire, c'est le rôle de la mise en scène, avec l'utilisation de musique,
L'architecture, j'appelle ça. L'architecture invisible, j'appelle ça.
Tu appelles ça comme ça, d'accord.
L'intelligence collective, on appelle ça l'architecture invisible.
Un côté un peu chaud à l'américaine, des fois, il y a vraiment une espèce de...
Alors, chaud à l'américaine, moi, j'ai fait séminaire dans tous les pays du monde, quasi tous les continents, donc moi, je trouve pas que c'est américain. Maintenant, je fais des séminaires comme ça en Amérique du Sud, donc c'est l'Amérique. Donc, eux, ils disent pas que c'est américain. Par contre, je suis allé faire des séminaires américains, c'était vraiment... Il y avait vraiment... on poussait le chaud. Dans ton séminaire que tu as fait, je me suis amusé un peu à faire des trucs à l'américaine. Vous êtes d'accord? Ouais, tout ça. Mais je le fais jamais, en fait.
Ah bon, d'accord.
Je sais pas pourquoi. Okay. Je me suis amusé parce qu'en ce moment, en fait, je veux dire la vérité, c'est qu'en général, c'est pas du tout américain. Bon, il y a une structure avec de la musique. La musique, c'est pas la même quand j'utilisais aux États-Unis. J'ai trouvé une musique qui c'est ERA. Donc, j'utilise des musiques quand même qui sont vachement françaises aussi. Et en ce moment, je suis en train d'essayer de créer une pièce de théâtre. C'est-à-dire de plus présenter le séminaire. Enfin, faire le séminaire comme un séminaire, mais quand je fais des ateliers, quand je fais des conférences, de développer du théâtre, parce que ma compagne, elle travaille dans le théâtre et elle m'a dit, tu étais un bon acteur, en fait. Donc, on a envie de créer une pièce de théâtre pour présenter la communication transformative, si tu veux, mais sous façon théâtrale, que les gens se divertissent en même temps et découvrent ça. Donc, en ce moment, je fais plein de tests.
D'accord.
J'ai des essais sur comment utiliser le théâtre dans ce truc-là. Okay. Donc, je fais beaucoup de blagues. Je sais pas si t'as vu les conférences.
Oui, tout à fait.
Tu vois, j'ai fait une conférence à Montpellier, mais c'était mortel.
Ah ouais, il y a une rythmique, il y a des blagues.
Donc là, je faisais même participer les gens avec des papiers, des écrits. Je jouais les rôles qu'ils avaient mis sur les papiers. Il y a les cartes de Saïda aussi, les cartes, les mots pour le dire, où j'utilise ces cartes aussi pour faire jouer des rôles. Et là, je suis en train de chercher, en train de dire comment on pourrait présenter ça et que les gens se marrent. Quoi. Parce que c'est dramatique. Hein. Je veux dire, la situation, elle est dramatique. Mais arriver à en rire, et en riant, on va en prendre conscience, mais profondément, et faire quelque chose. Donc là, ce que tu as vu, c'est que je fais des tests. Donc je me suis amusé, des fois, je vous disais un mot, je vous le faisais répéter en rigolant à l'américaine. Alors, c'est quoi le mot? Ouais, c'est rigolo. Mais je ne fais jamais ça. Après, oui, le cadre, il est très cadré, je le dis. Et puis, les processus en eux-mêmes, ben, ils sont précis, fins, sécurisés. C'est vraiment assez chronométré. Moi, on travaille à la seconde, tu as vu. Moi, je travaille à la seconde. C'est-à-dire tout est chronométré à la seconde. C'est-à-dire que je sais comment gérer un processus. Après, quand les gens partagent, c'est plus chronométré parce que le partage, il peut être plus ou moins long. Il y a un challenge, d'ailleurs, de faciliter les séminaires pour le temps parce que tu as vu, c'est 32 heures au total. Donc, il y a ce challenge. Mais C'est pour ça que les processus sont hyper précis. Et après, le partage, la prise de conscience, là, il y a l'espace. Mmh. Et c'est merveilleux.
Ça s'adresse à qui, ces séminaires ?
Ça s'adresse à toute personne qui veut des relations plus intègres, des relations plus authentiques, qui veut explorer sa propre relation avec lui-même. Ça s'adresse à toutes les gens qui veulent se connaître. Ça s'adresse à tous les gens qui ne croient pas en Dieu, pour essayer de trouver quelque chose de divin en eux, même si ce n'est pas Dieu, mais de quelque chose du profondément humain, des humanistes. Ça s'adresse aux gens qui sont croyants parce qu'ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur divinité. En fait, ça s'adresse à tout le monde, je crois. Mmh. À toutes les personnes qui veulent vraiment vivre leur vie de façon consciente et profonde. Je pense que c'est tout le monde, moi. Et ça s'adresse à tous ceux qui aiment la vie, parce que c'est très vivant et ça nous réveille la vie. Ça s'adresse à ceux qui sont déprimés, qui n'aiment plus la vie, pour le retrouver le goût de la vie. Ça s'adresse à tous les êtres humains que je dirais qui ont un désir de vivre plus profondément, plus intensément. Et aussi, souvent ce que je dis, c'est ça ne s'adresse pas qu'aux vendeurs de voitures et qu'aux coachs et qu'aux facilitateurs, aux thérapeutes, même si ça les aide aussi, parce qu'en Amérique du Sud, c'est principalement des thérapeutes qui viennent travailler avec moi, qui viennent faire les séminaires. Ça s'adresse à tous les êtres humains qui veulent ces relations. Même on pourrait le faire avec des enfants très jeunes, on adopterait une autre forme de séminaire. Le séminaire, je dis, quand un enfant qui a 15-16 ans désire le faire, c'est bon, il peut le faire. Maintenant, ça s'adresse à tous les gens qui veulent le faire aussi, pas à des gens qui voudraient que l'autre le fasse.
Okay.
Et je ne sais pas comment dire. Mon expérience à moi, c'est que j'ai vu tellement de gens. Il y a comme 15 000 personnes qui sont passées à travers des ateliers et séminaires avec moi dans les 15 dernières années. Et il y a une personne qui m'a dit « je ne suis pas satisfait, rembourse-moi ». Et la personne qui m'a dit ça, elle est diagnostiquée avec un peu borderline, tu vois, c'est quelqu'un qui voulait de l'argent, il y a eu une histoire d'argent, je suis remboursé immédiatement. Mais une personne sur 15 000, je trouve que ça frôle l'excellence. Après, je n'ai jamais vu quelqu'un qui me disait « ça ne m'a pas servi dans ma vie, ça n'a pas changé quelque chose dans ma vie, il n'y a pas une... » Tous les gens qui ont fait ce travail et qui se donnent, ils reviennent chez eux et ils disent « waouh, il y a un truc ». Tous, trois jours, hein. Tous.
Je confirme.
Ouais. Il y a quelque chose de... C'est assez simple. Enfin, pour moi, si c'était dans les écoles, on pourrait faire quelque chose d'une nouvelle éducation. Je le dis souvent, l'éducation nationale est en perpétuelle dégradation. Toi. Mm-hmm. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. Et je s'en fous, on apprend de l'académique, mais il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus vraiment une défense de l'humanisme là-dedans. Si on mettait ça dans les écoles, je le dis à tous les politiciens, si on met ça, donner trois jours aux ados et ça à l'école pour faire un genre de travail comme ça sur la communication, sur les émotions, sur la relation avec l'autre, sur l'intégrité, sur la notion de gagner ensemble, de vivre ensemble.
De responsabilité.
De responsabilité, mais dans le bonheur, quoi. Faire l'expérience.
L'engagement,
le faire, mais dans l'expérience, pas les menacer, quoi. Oui, pas les culpabiliser, mais de faire l'expérience de ce que c'est quand on s'engage, faire l'expérience de ce que c'est quand on coopère. Mais vraiment pratique, en une génération. C'est
on crée une société.
On a un autre monde. Mmh. On a une autre conscience. On arrête de lutter. On arrête tous ces trucs. Bon, on va me dire c'est une utopie, etc. Mais moi, je la vis tous les jours, cette utopie. Je vis dedans. Donc, c'est pas une utopie. Ça marche. Les gens qui font ce travail, ça marche. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un séminaire. Il y avait une jeune femme qui avait 17 ans. Elle s'appelle Maya. Maya, c'est l'illusion en sanskrit. Et elle est venue, elle fait le séminaire. Et puis, au milieu du séminaire, elle s'est levée. Elle dit : je voudrais te remercier, Lionel, parce que mes parents ont fait ce séminaire il y a 10 ans. Et je te connais. Quand tu venais à la maison, je t'appelais tonton Yo-Yo. Et en fait, moi, toute mon enfance, j'ai eu cette éducation d'écoute, de gagnant-gagnant, d'intention claire, de vivre dans l'instant présent, etc. Mes parents ont toujours été présents. Et je sais que c'est parce qu'ils ont fait des séminaires. Et moi, je suis avec des adultes, là, je vois qu'ils ont vraiment des problèmes à être présents, à écouter, à ne pas s'impliquer, à ne pas réagir. Et waouh, je suis vraiment content d'avoir eu des parents comme ça. Et je sais que c'est parce qu'ils ont fait des séminaires. Merci. Et là, je me suis dit, waouh, ça veut dire que tous les gens qui font ces séminaires, non seulement ils se transforment, mais ils contaminent la planète. C'est un véritable virus, le truc. Ils mettent dans les autres, dans les autres cette conscience de la communication transformative.
Ok, super. Bah, il ne te reste plus qu'une chose à nous partager. C'est ton site internet, c'est quoi ?
Mon site internet, c'est comtransformative.com.
Tu fais des ateliers un petit peu partout.
Alors moi, c'est simple. France. Dès que quelqu'un m'invite à venir faire un atelier, je viens. Il suffit qu'il y ait 12 personnes et je viens, je me déplace partout dans le monde pour 12 personnes. Bon, les gens, ils me payent le frais pour y aller. Si je vais à Paris, les gens, ils me payent le frais. Et pour les ateliers, je ne demande rien d'autre que les frais, sauf si c'est en entreprise où il y a des contrats, etc. Mais l'idée, c'est de permettre aux gens de faire l'expérience. Et après, pareil, pour organiser des séminaires, dès qu'il y a 12 personnes, je viens, moi. Bon, il suffit de 12 personnes parce que ça donne assez d'énergie pour que... C'est comme la mayonnaise, quoi. Il faut le mélange pour que ça prenne. Il y a un certain truc à faire. Et 12 personnes, j'ai vu que c'était le... C'est pas le minimum, mais c'est un groupe de 12 personnes. C'est déjà un groupe où ça va prendre la mayonnaise. Mm-hmm. Après, on peut aller jusqu'à 30. 50, on pourrait faire, mais il faudrait tout un système avec d'autres facilitateurs. Mais jusqu'à 30 personnes, entre 12 et 30 personnes, je viens et satisfait ou remboursé, je dis tout le temps. C'est impossible que ça... C'est impossible que les gens qui font le séminaire ne soient pas satisfaits. C'est humain. C'est l'humain qui rencontre l'humain. L'humain, quand il rencontre l'humain, il est heureux, il est satisfait. Et toi, tu viens de le faire, donc...
Tout à fait. Oui. Bon, mais écoute, super. Et on trouve tes contacts sur le site si jamais certains de nos auditeurs ont envie de venir découvrir un peu plus la communication transformative ou même t'inviter par chez nous en Cévennes ou ailleurs.
Oui, moi, je suis dans l'au-delà. dans l'Aude, là. j'aime bien l'Aude. Et ouais, le site comtransformative.com.
Merci d'être venu au festival Terre de Convergence donner cet atelier gratuit où j'ai pu te rencontrer et qui fait que maintenant j'ai fait ton séminaire.
En fait, c'est un gars qui avait déjà fait un atelier qui est psychanalyste, qui a vu mon atelier, qui m'a dit ce que tu me rappelles, toi, c'est l'écoute curieuse. Comment il disait ? La curiosité neutre. Il avait un nom pour dire quelqu'un qui écoute sans plan. Simplement une écoute pure. Mm-hmm. Et lui, il m'a dit, il avait lu ça dans les bouquins, mais il ne l'avait jamais vu. Et quand il m'a vu faire la démo, c'est avec lui que j'avais fait une démo. Il m'a dit, c'est exactement ce que j'avais lu. Quelqu'un qui t'écoute sans te diriger, mais complètement présent. Et lui qui était dans ce métier, il m'a dit, ça a un effet sur l'humain qui est tellement puissant, ce truc. Ça a un nom. Hier, on m'a rappelé le nom grec, mais je ne me rappelle plus. Cette écoute parfaite, quoi, où il n'y a pas de plan derrière. Mm. Et il m'a dit, ça fait tellement de bien humain que je vais t'inviter. Et c'est lui qui m'a invité au festival. Il voulait que je vienne tous les jours, mais j'avais le séminaire qui commençait, sinon je serais venu tous les jours faire des ateliers. Et comme les gens, ils commençaient à entendre parler de la communication transformative, tu as vu, c'était plein, il y a toujours du monde.
Ouais,
quoi.
Ouais, ouais.
Donc, j'aime bien les festivals aussi. Ouais.
Ouais, super.
Les festivals, j'adore. Et...
excellent. Merci Lionel pour cette interview. À la prochaine.
Merci à toi. À bientôt.
My gang will get... Retrouvez les enfants du Nouveau Monde sur les ondes de Radio 16 les lundis à 15h et les vendredis à 14h. Vous pouvez réécouter l'émission quand vous voulez sur radio16.net et télécharger également toutes mes interviews sur mon site web au service du vivant.info. À tout bientôt.